Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Lebiquetch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 12 novembre 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 13, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Ce soir, on va renouer avec une vieille tradition et puis on va innover. On est tout le temps en mouvement, c'est formidable cette émission.
Bouge ton corps.
Bouge-toi. Alors d'abord, je présente mes invités. Vous venez d'entendre Goffman, Patrick. Vous avez entendu juste avant Victoria. Bonsoir Victoria.
Bonsoir Serge.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Eh ben, c'est bien, je m'en félicite. J'entendrai aussi Madame Delcroix. Bonsoir Madame Delcroix, comment allez-vous ?
Bonsoir, je vais bien, merci.
Je m'en réjouis. Et nous entendons également, tiens, je vais commencer par la droite, encore que le docteur Jean-Pierre Villem. Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Et puis à gauche, donc Bernard Anthony.
Bonsoir.
Bonsoir Bernard. Alors, je disais que nous allons renouer avec une vieille tradition. J'en ai parlé il y a 15 jours. Je confirme que ce soir, après l'émission, nous nous retrouverons pour un dîner entre amis au restaurant La Mer Agitée. C'est 21 rue Campagne Première. Il reste quelques places si vous voulez réserver. Le prix du triangle est de 25 euros. Vous serez des nôtres, Bernard ? Oui, il sera des nôtres.
Voilà.
Vous n'avez pas donné le numéro de téléphone.
Alors je vais le donner, mais je plaisantais pour donner à la population auditive le temps d'aller chercher un crayon, un bout de papier, etc.
Une fois que je lis sous
un burin.
Hélène Sabatier me dit de dire que je serai des vôtres.
Bon,
parce que je
vais
dîner avec elle, secrétaire générale de la GRIF.
Ah bon?
Et donc, elle sera des nôtres alors aussi.
Eh bien sûr.
Voilà.
C'est bien fait pour vous. Ça vous apprendra, vous perdrez une belle occasion de tête à tête.
Elle va boire son goût comme les autres.
Comme... Ouais. Donc, le téléphone, si vous voulez venir avec nous, 01 43 35 56 64, vous téléphonez à Valérie Delahaye. Et vous pourrez, s'il reste de la place, il en reste quelques-unes, vous pourrez participer à ce dîner qui est en général assez sympathique. Et si vous ne pouvez pas venir ce soir, je vous signale que jeudi prochain, ce sera la soirée...
C'est demain ?
Ah non, jeudi en huître. Ah, je pense, enfin je sais pas. Non,
le mois prochain, jeudi prochain, c'est demain.
Je non, me le Beaujolais pif, c'est à la fin du. Enfin, en tout cas, c'est la journée du Beaujolais, la soirée du Beaujolais nouveau.
Les auditeurs de Tokyo ou de Canberra, on n'est pas sûr de les voir ce soir. Il ne faut pas leur en tenir rigueur.
Non, mais c'est vrai qu'il y en a, mais ils viendront la prochaine fois. Et donc, la prochaine fois, ce sera, je l'ai dit, la soirée du Beaujolais nouveau. Et je trouve que vraiment pour boire du Beaujolais nouveau, déjà pour boire du Beaujolais, il faut bien accrocher.
Non, le Beaujolais, c'est bon.
C'est bon,
le Beaujolais nouveau a balayé le Beaujolais traditionnel, c'est un grand malheur.
Moi, je connais le seul Beaujolais excellent que je connaisse.
Non, il y en a beaucoup de grands.
Bah non, mais celui que je connais, c'est celui qu'apporte mon excellent camarade Bernard Sec dans sa musette, et qui vient d'un lieu. Bah, enfin, du Beaujolais, mais alors, ça, c'est admirable.
Henri Béraud a magnifiquement parlé du Beaujolais, parce que le Beaujolais est bon.
C'est pas ce que je préfère.
Il est né dedans.
Il est né dedans.
Voilà, alors donc, je voulais dire ça. 01 43 35 56 64, le prix du triangle est de 25 euros. Alors, pourquoi je dis le prix du triangle? Bah, c'est pour faire de la provocation, parce que chez les francs-macs, quand on fait des agapes, le prix de l'addition, on appelle ça le triangle. Voilà, comme ça, vous savez tout. Alors, tout le monde va dire, plon-plon va encore dire que je suis un franc-maçon masqué.
Et puis, surtout, que je suis là ce soir.
Toi, t'es un juif en plus. Donc, alors, entre le juif et le franc-maçon, on a la... Oui, oui.
Ah, ben, c'est bien.
Bernard Anthony est juif, comme chacun sait.
Je vous remercie d'avoir traduit le triangle, Serge, parce que moi, je pensais qu'il y avait un orchestre symphonique chez la mère agitée.
Vous avez parlé du triangle. Non, il y a une seule partie de l'orchestre symphonique, c'est le triangle. Bien, assez dit de bêtises. On va laisser les autres en dire, notamment, alors ça je dois dire, j'avais fait un édito dans le Libre Journal pour évoquer l'affaire du foulard, plus exactement l'affaire de l'interdiction des signes religieux en public, dans les lieux publics. Et alors, j'avais terminé ce papier en disant pourquoi je parle de ça, c'est pour montrer que Jacques Lang était un crétin et que les hommes politiques, les élus qui allaient voter cette loi étaient des imbéciles. Et alors, ça n'a pas traîné, mon ami. Monsieur Debré, qui est fidèle à une tradition familiale désormais bien ancrée, annonce qu'il est partisan de l'interdiction des signes religieux.
Y compris dans les écoles religieuses sous contrat.
Voilà, dans les écoles publiques et privées. Alors, pourquoi ça? D'abord, parce que, finalement, si on interdit que dans les écoles publiques, tout le monde va foutre le camp dans le privé, et c'est pas bon pour la République. Donc, on interdit également dans le privé. Mais ces gens-là n'ont même pas réfléchi à ce qu'ils proposaient, parce que c'est évidemment une loi totalement inapplicable. Et je vais en faire la démonstration rapidement. On peut interdire la kippa, ce qui est prévu, on peut interdire le voile islamique, ce qui est prévu, on peut interdire la croix, ce qui est prévu. Mais, par exemple, s'il y a des adeptes des vieilles religions égyptiennes qui arrivent au collège avec la croix, comment on appelle ça, la fausse croix égyptienne, le symbole de vie ou je ne sais quoi, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur dire, retirer ça, ils vont dire c'est un bijou. Si c'est une beurette qui, comme la gamine qui s'est fait défigurer à coups de cutter la semaine dernière parce qu'elle portait des croix en guise de boucle d'oreille, elle s'est fait défigurer, pas du tout par des catholiques qui étaient choqués par cet usage blasphématoire de la croix, mais par des musulmans qui l'ont traité de putain parce qu'elle portait une croix. Ils ont des façons d'identifier les putains qui sont assez approximatives. Donc si elle dit c'est pas du tout un bijou, c'est une croix, enfin c'est pas du tout une croix, c'est tout simplement un bijou en forme de croix, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va interdire les bijoux. Mais il y a mieux que ça, parce que lundi, j'avais rendez-vous devant la fontaine Saint-Michel, avec un ami, et comme il était en retard, hein, d'ailleurs je précise qu'il était tellement en retard qu'il n'est pas venu, ce qui n'intéresse personne, j'ai eu longtemps le temps de regarder la décoration de la fontaine Saint-Michel. Or, qu'est-ce que c'est que la fontaine Saint-Michel? C'est une immense statue monumentale de l'archange Saint-Michel, terrassant Satan. Alors, on sait que le catholicisme est une religion, on sait que l'islam est une religion, on sait que le judaïsme est une religion, on sait que le bouddhisme est une religion, mais on commence à savoir depuis quelque temps, et en tout cas depuis que les Américains ont autorisé la présence d'aumôniers satanistes dans les unités militaires, que le satanisme est une religion. Autrement dit, dans l'état actuel de la législation, enfin dans l'état futur de la législation, comme la représentation des symboles religieux sera interdite dans les lieux publics, que d'autre part, la statue de l'archange Saint-Michel terrassant Satan est un acte d'une violence terrifiante.
Et d'une intolérance.
À raison de l'appartenance religieuse des satanistes, qui vont dire, attendez, nous, on est pour Satan, vous nous mettez sous les yeux, en permanence, le spectacle abominable d'un archange en train de terrasser notre Dieu préféré. Imaginez remplacer Satan par un juif et Michel-Ange, l'archange Saint-Michel par un musulman, et imaginez qu'on ait une statue gigantesque dans Paris d'un musulman en train d'égorger un juif, ou le contraire. Vous voyez un peu le raffut que ça ferait. D'où malaise. Alors il va falloir supprimer la statue de Saint-Michel. Ça va être drôlement compliqué leur histoire. Et puis les adorateurs de l'oignon, sur les marchés, il va falloir interdire les oignons.
C'est vachement humiliant pour eux de voir tous ces oignons en rang.
Il va falloir... la statue de Saint-Michel n'est pas dans une école.
Non, elle est dans un lieu public.
Oui, mais elle est dans...
Non, mais en plus, elle manifeste, Bernard, une agressivité intolérable.
En l'occurrence, le débat porte sur l'enseignement. Mais il y a un autre signe religieux que tu n'as pas cité, que Daoudal met justement en avant dans son éditorial de National Hebdo, c'est la casquette. Pourquoi la casquette est-elle portée, la visière en arrière?
Ah ben oui, parce que c'est une appartenance, c'est un signe musulman. Parce que Allah interdit qu'on cache son regard aux yeux du Créateur.
Et puis parce que quand on fait la prière, la visière ne permettrait pas d'aller jusqu'à terre. Donc la casquette est un signe d'appartenance religieuse, c'est un signe de connivence, c'est un clin d'œil.
Il faut dire aussi que ça donne un air remarquablement con. La visière à l'arrière. Moi, je trouve ça fascinant.
Ouais, mais tu vois, tu sors encore du sujet une nouvelle fois. Là, tu fais un peu de hors-sujet, Serge.
Non, c'est pas hors-sujet. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais non. Il est vrai que, en plus. Voilà. Comme dirait Houellebecq.
voilà. Et quand ils sortent deux petites mèches devant par le...
Bon, on va arrêter de parler de tout ça.
C'est encore mieux.
Alors, je voudrais vous donner là, il y a quand même une autre information que m'envoie un auditeur bien intentionné dans le courrier de Que Choisir. Voilà. Il y a une dame, Madame Nicole Meyer, qui est à Gambay. J'espère qu'elle n'est pas cuisinière, parce que c'est embêtant. Qui écrit, voilà. Mon fils s'est fait voler son sac dans le train Versailles-Dreux. Jusqu'à présent, rien de vraiment très original. Un procès-verbal de gendarmerie a été établi. Deux jours plus tard, on l'informe que son portefeuille a été retrouvé et qu'il sera à sa disposition l'après-midi au bureau des objets trouvés à la gare Montparnasse. Il s'y rend. Au guichet, on lui réclame de façon autoritaire la somme de 6 euros pour récupérer son portefeuille qui n'avait pas été délesté des pièces administratives, permis de conduire, pièces d'identité. Voilà. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas à la SNCF un service spécial qui consisterait à envoyer des gens piquer les portefeuilles dans les chemins de fer pour récupérer 6 euros de plus à la sortie pour faire face au déficit? Parce que c'est ça. On pique le portefeuille, on le porte aux objets trouvés, on téléphone au gars, on lui dit, on a retrouvé votre portefeuille, venez le chercher, 6 euros. Il sort, on lui repique son portefeuille, on le rapporte. Si ça se produit à ce rythme-là, on peut arriver à faire un peu de fric. Vous imaginez un millier de portefeuilles tous les jours, ça fait 6 000 euros. Ça ne réparera pas le déficit de la SNCF, mais ça peut aider quand même. Donc ne perdez rien à la SNCF, hein, je vous le conseille. Ne vous faites pas voler à la SNCF. C'est pas quand même des méthodes de voyous, ça, vous ne croyez pas, non ?
C'est du bricolage, Serge. Pensez qu'il y a quelques années encore, la SNCF payait des milliers d'employés pour établir votre titre de transport. Depuis, vous l'établissez vous-même, et pour peu que vous passiez par Minitel ou par Internet, vous payez pour établir votre titre de transport. Il y a quand même là un progrès, ou comme vous le disiez, un racket beaucoup plus considérable, vous ne pensez pas ?
Non, je pense pas, moi j'ai arrêté. J'ai complètement arrêté de penser. Alors, vous avez vu que le désordre règne, je sais pas si l'ordre règne à Varsovie, mais à Paris, le désordre règne. Vous avez vu Bernard Antonis qui vient de se passer à l'Assemblée nationale, vous pouvez vous féliciter de
J'arrive
pas être...
de ma province, à l'instant même.
Alors vous pouvez vous féliciter de pas être député, parce que à l'Assemblée nationale, les intermitteux du pestacle ont manifesté. Ils étaient à la tribune du public.
Ils se sont emparés de l'Assemblée?
Non, pas tout à fait, ils ont essayé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que on a arrêté la séance et on l'a raccourci. Alors, on se disait avec Patrick tout à l'heure, en entendant cette information, que on peut pas dire que la représentation nationale fait beaucoup de progrès dans le sens du courage physique, parce que on se souvenait qu'à l'époque de l'attentat de Vaillant, qui avait jeté une bombe à clous, qui avait tué des députés, d'ailleurs, qui avait fait un carnage épouvantable dans l'Assemblée, le président de l'Assemblée avait dit « Messieurs, la séance continue ». Et ils avaient repris la séance après qu'on eût emporté les cadavres et les blessés. Et ici, parce qu'il y a trois pétassiers d'intermiteux du spectacle qui brandissent un drapeau, enfin des banderoles, on dit hop, halte au feu, on arrête tout, on arrête là. On rentre chez nous, il pourrait être dangereux, allez savoir.
Ils commencent à être sympathiques, ces intermiteux du spectacle.
Aussi, j'aime bien intermittent, tant. Il y avait CRSSS et étudiants d'Ordian.
Ma foi.
Voilà, donc ils ont écourté la séance sur tous les prétextes sont bons pour rien foutre à l'Assemblée nationale.
Ce n'est pas le seul désordre dont nous avions l'intention d'informer brutalement notre provincial dès son arrivée.
Oui.
Serge, est-ce que le moment n'est pas venu de toucher un mot des arroseurs arrosés, nos confrères d'AutoPlus, dont tous les médias l'ont rapporté, jusqu'à Toulouse, je pense, Bernard, les deux ministres responsables de la répression routière, M. Sarkozy, M. de Robien, ont été pris donc en excès de vitesse par le magazine AutoPlus. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on apprend par le canard enchaîné, pourquoi ne pas le dire, parce que nous avons à le citer encore et en bonne part tout à l'heure, on apprend donc que le journaliste d'AutoPlus a été verbalisé à 150 à l'heure et qu'il a dit aux gendarmes, et je cite là un PV de la gendarmerie nationale, il a précisé qu'il voulait faire intervenir le chef de cabinet de M. Sarkozy. Alors là,
oui,
c'est...
mais moi, ça m'inspire une autre réflexion, cette histoire. Comment le canard enchaîné a-t-il obtenu ce document? Ça veut dire que c'est le ministère de l'Intérieur, c'est Sarkozy.
Non, c'est les armées, la gendarmerie nationale.
Non, maintenant, c'est le ministère de l'Intérieur qui contrôle la gendarmerie.
Ah, ouais. Il a raison.
Bien sûr. C'est toute l'histoire. Monsieur Sarkozy est accusé par le canard, par AutoPlus d'avoir enfreint la vitesse limite, d'avoir dépassé la vitesse limite. Il commence par dire que c'est pas vrai. Ensuite, il dit qu'il va faire vérifier le matériel de contrôle d'AutoPlus. Et troisièmement, il dit que après tout, il est ministre et qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, parce qu'il assure la sécurité de sa propre circulation. Mais d'abord, ces méthodes, ça fait penser au vieux truc de l'armée, quand il y avait la coloniale, où on disait, si pas moi chef, je l'ai pas fait exprès, je recommencerai pas. Bon, il y a les trois excuses. Mais ce qui est encore plus fabuleux avec Sarkozy, c'est que, ayant fait ça, il s'arrange pour que fuite un rapport de gendarmerie qui normalement devrait rester au ministère pour mouiller le journaliste d'AutoPlus. Ce qui ne prouve d'ailleurs rien du tout, parce que le journaliste d'AutoPlus, c'est un simple quidam, et lui, le journaliste d'AutoPlus, il n'a pas la possibilité de faire sanctionner des automobilistes. C'est pas lui qui décide de dépenser des milliards pour placer des radars sur le bord des autoroutes, des radars automatiques qui envoient automatiquement les contredanses. C'est monsieur Sarkozy. Alors la moindre des choses qu'on pourrait demander à un ministre, remarquez, on dit ça puis ça nous fait rigoler, ça serait de respecter les lois qu'il édicte lui-même. Le journaliste d'AutoPlus, ça n'est qu'un délinquant comme les autres. Sarkozy, c'est un ministre délinquant, qui est beaucoup plus grave. En réalité, ce qui est beaucoup moins grave, puisqu'il ne sera pas puni, lui. Au pire, ce sera son chauffeur qui sera puni. C'est toujours les lampistes qui trinquent. Par exemple, dans l'affaire Elf, on apprend que M. Le Floc, il a pris 5 ans. M. l'autre, il a pris Jean. Non, c'est pas pris Jean, comment il s'appelle l'autre ?
Le Floc, Sirven. Jean Sirven.
Il a pris 5 ans. Et M. Tarallo, il a pris 4 ans. Et ils ont tous dit qu'ils ne feraient pas appel et qu'ils étaient très contents comme ça. Pourquoi ? C'est évidemment parce que depuis le début, ils n'ont pas cessé de dire que si on les emmerdait un peu trop, ils allaient balancer les noms, et qu'ils n'ont balancé aucun nom. Donc ils ont tous des peines qui sont pratiquement couvertes par la préventive. Et ils vont sortir dans les semaines ou les mois qui viennent. Ils ont tout à fait intérêt à s'écraser, parce qu'autrement, ils finiront avec une balle dans la tête. C'est évident. C'est une affaire tellement énorme qu'on les tuera s'ils parlent.
300 millions d'euros de
300 présent. Millions d'euros, ça fait quoi ? Je peux même plus compter 300 millions d'euros.
Vous multipliez par 6.
C'est beaucoup. Hein, voilà, c'est beaucoup d'argent.
Ça fait 2 milliards pratiquement de francs.
Oui, mais 2 milliards de francs, ça fait quoi ? C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut plus. On ne sait plus 2 milliards
de francs. Serge, tu n'as jamais été fait pour être banquier, on en était tous persuadés.
Oui.
Ne t'enfonce pas, là.
Non, j'ai fait un calcul quand même que j'ai publié dans le livre au journal, c'est le volume de la dette de la France. C'est.
Que vous allez publier.
Que je vais publier.
Oui, oui.
Avant, je ne sais plus, moi.
Il a sauté pour mettre la photo de Rumsfeld.
Ah oui. Alors, dans le prochain, il y aura ça. Je le livre en exclusivité. C'est quand même passionnant à nos auditeurs. En billets de 10 euros, s'il fallait rassembler le nombre de billets de 10 euros nécessaires pour payer la dette de la France, il faudrait couvrir un terrain de football d'un paquet de 10 euros qui ferait la hauteur d'un immeuble de 20 étages. Ça fait beaucoup quand même, hein, les camions pour apporter ça. Rien que l'essence qu'on va dépenser pour le transport, ça va augmenter la dette. Voilà. Bon, quoi dire d'autre? Alors, il y a eu une émeute à Barbès. Pourquoi? Alors là, c'est aussi formidable. Ça montre comment les gens qui sont au pouvoir... Gouverner, c'est prévoir. Hein? Alors, ils ont dit, pour faire baisser la consommation de tabac, on va augmenter le prix du tabac. En plus, ça nous rapportera du fric. Ce qui est déjà une stupidité en soi, puisque si les gens fument moins, ça rapportera moins. Même si c'est plus cher, ça ne fera que compenser. On ne peut pas à la fois espérer que les gens vont fumer moins et que le tabac va rapporter plus d'argent. Ça ne peut pas marcher dans les deux sens. Ça fait penser à l'histoire du chemin de fer de Vladivostok à Moscou, ça. Je vous le raconterai un jour. Donc, d'abord, ça, c'est une erreur. Ensuite, ils n'ont pas prévu du tout que ça allait, évidemment... Ça, c'était dans le Libre Journal il y a 2 ans, on avait annoncé déjà. Ça allait provoquer une inflation formidable de la contrebande. C'est fait, ça marche. Et puis, en plus, ça provoque une inflation formidable des agressions contre les buralistes. C'est-à-dire que maintenant, quand on a une cartouche de cigarette, on est pratiquement aussi cher que si on avait un collier dans un écrin. Donc, c'est plus facile d'attaquer un bureau de tabac qu'une bijouterie. Et il y aurait... pas de raison de se gêner. Mais ça provoque aussi l'affluence à Barbès, on voit sous le métro, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes qui vendent des paquets de cigarettes de 2 euros. Oh, ça vaut le coup. Bon, alors naturellement, on envoie les policiers. Les policiers disent, monsieur, vous vendez des cigarettes. Eh ouais, t'en as à foutre, poulet. Bon, et alors à ce moment-là, les flics disent, suivez-moi. Oh, je te suis pas, t'es foutre. Et la foule s'ameute, les badaboum émeutent. Parce que les flics étaient 15. Ils ne savaient pas que quand on va à Barbès, il faut venir à 500 avec des chars. Ils n'ont qu'à prendre... Regardez, ces Américains à Bagdad, ils n'arrivent déjà pas. Alors, les policiers français à Barbès, je ne vous dis pas ce qui va leur arriver. Donc, ils se sont fait joyeusement détrancher.
Mais Serge, comment voulez-vous que la population de Barbès, qui a d'ailleurs son orchestre national, vous avez vu comme moi les affiches de l'orchestre national de Barbès, tolère que la police française fasse irruption, mais après des années d'indifférence? Je n'apprends pratiquement à aucun Parisien. Les Parisiens qui sont passés une seule fois à Barbès savent que la drogue se vend à 20 mètres d'écart de CRS depuis des années, que sous le métro dont vous parlez, il se vend des fausses Lacoste, et ça c'est également un délit, impunément depuis des années et des années. Et d'un seul coup, il y a 15 flics qui arrivent. La France, c'est Edgar Morin, je crois, mais comme nos auditeurs savent tout, ils vont me corriger, c'est Edgar Morin qui disait, il y a déjà de longues années, la France est le plus riche des pays du tiers-monde. Ça saute aux yeux dans cette histoire de Barbès. Est-ce que ça ne saute pas également aux yeux quand on déplie le Parisien d'aujourd'hui et qu'on y trouve des nouvelles des 2,5 millions de gens qui conduisent sans permis? Alors, je ne vais pas lire 3 pages, mais vous me permettez, Serge, de lire quelques lignes du témoignage de Junior.
Oh, Junior.
Junior, qui raconte aux Parisiens que entre eux, les jeunes l'appellent le permisité. C'est quoi le permisité? C'est pas de permis. Et ce garçon, Junior, il est, non seulement il conduit sans permis, mais professionnellement. Et il explique qu'il a dit à la société de livraison qu'il a embauché, qu'il avait le permis, que ça s'est arrêté là. Et que quand il est contrôlé, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh, j'ai oublié mes papiers à la maison. Bon, ça fait rien, circuler, présentez-vous au commissariat. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un copain qui a le permis. Et ça s'arrête là. Et ils sont 2,5 millions. Alors on rigole, mais comme d'habitude, on rigole jaune autour de cette table. Parce qu'on sait.
Attention à vos propos. Hein.
Parce qu'on a entendu, comme tout le monde, qu'aujourd'hui à Sannois, il y a 2 de ces jeunes munis de leur permissité qui en ont tué 2 autres. De 12 et 13 ans, qui avaient le malheur d'être sur le trottoir au mauvais endroit et au mauvais moment. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment flagrant, une fois de plus, que les redemontades de M. Sarkozy et de ses employés sont vraiment consternantes, parce qu'une fois de plus, il est clair que la France est peut-être pas le plus riche des pays du tiers-monde, mais c'est sûr que c'est un pays du tiers-monde.
Non, mais en plus, il faut comprendre une chose, puis on va rester là après, c'est que les pauvres gars de Barbès, les habitants de Barbès, quand ils voient arriver la police, ils disent, mais putain, mais il y a, depuis 62, on a l'indépendance et vous venez encore nous emmerder. Vous comprenez?
C'est ça le qui trabendo continue, c'est les meilleurs qu'Alger. Ça s'appelle le trabendo.
Je voudrais peut-être, parce que je viens de ma province, amener quelques chiffres, même pour les auditeurs de Paris qui s'illusionneraient sur la province, croyant que c'est peut-être mieux ailleurs que dans la capitale. Eh bien, pour ce qui est du groupe Sniper, dont l'avocat de la Griffe a fait partiellement interdire le concert. Et ce groupe Sniper à Toulouse, au Zénith, donc obtenu 9000 entrées. Il y avait donc 9000, l'entrée était à 70 euros.
Hein? Oula.
Donc, entrée à 70 euros, 9000 participants.
Pour un jeune en difficulté. Hein.
70 euros, 9000 entrées, entre 500 et 700 voitures de gabarit supérieur telles que tu n'en as jamais eu, Serge, dans le Mercedes, BMW, etc., etc. Le trafic de la drogue à Toulouse, parce qu'il n'y a pas que le canard enchaîné qui reçoit des indiscrétions, quand même j'en reçois un tout petit peu, en tant que président de la Griffe, le seul trafic de la drogue chaque mois à Toulouse est évalué par les services de la brigade de répression des fraudes à 23 millions d'euros. Alors, calculez à nouveau, vous voyez ce que cela donne, c'est une économie parallèle qui influe sur toute l'économie d'une grande ville comme Toulouse.
Je trouve ça très bien, moi.
Voilà.
Non, mais je trouve ça très bien, parce que les consommateurs et les revendeurs, c'est les mêmes, donc ils s'entretuent, c'est parfait. Voilà. Est-ce que les machettes sont des objets traditionnels utilisés en agriculture par nos paysans? Pas depuis 62. Hein? Voilà, c'était un auditeur qui posait une question, donc j'y réponds.
Alors, un commentaire, si vous voulez,
oui,
aussi d'une auditrice qui dit « Et si gouverner, c'est prévoir le pire. » Et voilà. Vous avez parlé de la croix égyptienne tout à l'heure, elle s'appelle la croix Ankh, croix potentée. Il y a une solution pour les signes extérieurs de religion. Faites-vous donc tatouer une croix sur le dos des mains. Comme ça, on ne pourra pas vous l'enlever.
Bon, ils sont capables de vous couper les mains, vous ne les connaissez pas, les instituteurs, ils sont sauvages.
Et je voudrais pas qu'on quitte le sujet de Sniper.
Non, mais on va y venir tout à l'heure.
Ah bon.
Alors, si on y revient,
on va avoir un invité.
Serge de Beckett, vous vous laissez abuser par l'affaire Elf, destinée à cacher la grosse affaire des vedettes de Taïwan, 6 milliards de commissions.
Je ne me laisse pas abuser, c'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais c'est ça que ça voulait dire.
Je peux finir les messages que j'ai là.
Oui.
Pour Monsieur Anthony, vous devriez bien lire la sourate 109. Pour combattre l'adversaire, il faut le connaître.
Mais je crois que je n'ai pas eu besoin de cette sourate. Je sais que j'ai souvent parlé du Coran en disant même qu'il n'y avait pas de Coran alternatif. Mais enfin, cette sourate-là est un lieu commun. Et je crois que je me suis attaché quelquefois à essayer de connaître l'adversaire.
Alors donc,
je rassure l'auditeur.
Vous êtes parisien, Bernard Anthony, vous venez vous retremper dans la vraie vie, alors.
Je suis parisien, comme souvent le mercredi et le jeudi, où on peut me trouver au Centre Charlier... et à la Griffe, au 70 boulevard Saint-Germain.
Donc demain... Alors...
Mais je ne suis pour rien dans la tentative de putsch à l'Assemblée nationale
non,
aujourd'hui.
C'est pour ça que ça n'a pas marché, d'ailleurs. Demain, il y a une grande conférence qui est donnée...
Enfin, oui,
conférence à deux voix qui doit être quelque chose de tout à fait remarquable, parce que ça se passe donc au 70, c'est ça?
Oui, puisque nous avons repris le cycle des conférences du Centre Charlier sous la présidence de Georges-Paul Wagner, qui anime cela excellemment, comme il le faisait jadis à l'Institut d'Action Culturelle du Front National. Et nous recevons Thierry Boutillier, qui a écrit un livre, je crois, passionnant, parce que je ne l'ai pas encore lu, je le confesse, je ne veux pas faire semblant. Un livre passionnant, me dit Georges-Paul Wagner, sur Thierry Vignancourt.
Là,
donc à 19h demain, au 70 boulevard Saint-Germain.
Il y a un formidable papier de Georges-Paul Wagner dans Présent d'hier soir, qui est en vente ce matin. Vraiment, grand papier.
Eh bien, je le lirai.
C'est pas très étonnant, mais enfin,
je le lirai avec attention tout à l'heure.
Donc cette conférence se passe, alors rappelons-le, le 13 novembre, c'est-à-dire demain à 19h précise, 17 boulevard Saint-Germain.
Comment non, 17 non, pas 17.
70 alors, boulevard Saint-Germain.
Quoi, mon pauvre Patrick, vraiment, ça ne va pas du tout.
Il faut le dire et le répéter, 70 boulevard Saint-Germain, parce que le Libre Journal a écrit 17, mais pour compenser... National Hebdo a écrit 170. Alors, il suffit de faire la moyenne et on est bon.
Écoutez, nous avons quelques difficultés financières en ce moment. Nous ne pouvons pas racheter tout le boulevard.
Momentanément.
Cela viendra.
Alors c'est bien au 70.
C'est bien au 70 boulevard Saint-Germain.
Métro Maubert Mutualité.
Et demain, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, nous annoncerons à nouveau notre grande journée de Villepreux le dimanche 23 novembre, donc au domaine de Grand Maison, pour la sortie du dictionnaire de la réplique.
Alors on va en parler, ce dictionnaire de la réplique, parce que on en a déjà un peu parlé la dernière fois que vous êtes venu, Bernard, mais je ne sais pas si c'était suffisamment clair pour les auditeurs. Et c'est ils ont bien compris de quoi il s'agissait. En fait, il s'agit d'un vademécum d'un guide de la lutte contre les bêtises à la mode. Hein.
Serait prétentieux. Non, ce n'est pas un guide. Ce n'est surtout pas une encyclopédie. Ça aurait été trop orgueilleux. Ça n'est pas à notre portée. Non, la part, d'abord, est-ce que je puis dire de quoi cela est parti? C'est parti d'un incident entre ma troisième fille, j'en ai quatre, qui était en classe d'hypocagne au lycée Pierre de Fermat à Toulouse. Elle est aujourd'hui professeure dans un lycée de la région parisienne. Et elle avait eu avec son professeur d'histoire un petit différend. Il avait d'ailleurs été courtois. Il lui avait dit que Franco était un complice d'Hitler. Et elle lui a répondu du tac au tac. Mais enfin, monsieur, après Pie XII, le général Franco est celui qui a probablement sauvé le plus grand nombre de juifs. Le professeur, mais comment pouvez-vous dire cela? Ben, je crois savoir cela. Et elle est rentrée à la maison, elle m'a demandé une petite notice pour ce professeur, qui a fait des excuses, parce qu'il y aurait que chaque année, à la grande synagogue de New York, à Brooklyn, un office est toujours rendu à la mémoire du général Franco, parce que celui-ci, effectivement, a sauvé, en leur attribuant un passeport espagnol, tous les juifs, donc jadis expulsés d'Espagne. Alors, c'était une réplique, c'était tout simplement un fait. On ne va pas s'étendre sur le sujet particulier du général Franco, qui donc était, disait-on, d'origine marane, comme moi. C'est pas exactement juif que M. Plancard-Assac me désigne, c'est marane. C'est pas vrai. Si c'était vrai, j'en serais très fier, d'ailleurs. Tout à l'heure, j'ai pas répondu. Si c'était vrai, je serais très très heureux de pouvoir le dire, mais ce n'est pas le cas. Je ne suis issu que d'une ligne immémorial de paysans bigourdants, oui, c'est bah, comme ça.
Il n'y a pas lieu de s'en vanter.
Voilà. Eh bien, je m'en vante. Alors, voilà, c'est parti de cela. Et cette idée, ce fait m'a donné l'idée de réfuter, de répliquer et de donner à l'honnête homme, mais surtout aux étudiants, donc une série d'articles prenant en compte les mensonges et les lieux communs. Et il y en a tellement. Alors j'ai essayé d'expliquer ça autour de moi et je me suis rendu compte, puis-je faire cette confidence tout à fait amicale, que de grands esprits de notre camp, et Dieu sait que notre camp n'en manque pas, donc comprenaient mal, au fond, cette idée de réplique. Et ils ont en général beaucoup de difficultés à se mettre dans la peau de l'adversaire. Ils n'écoutent pas les mensonges, ils n'essaient pas de comprendre pourquoi ces mensonges ou les lieux communs, ils sont volontiers très dogmatiques. Et je trouve qu'il y a un bon dogmatisme, mais un mauvais. En tant que catholique, je rappelle que les dogmes sont en très petit nombre et contenus dans un texte très petit qui s'appelle le Credo. Mais ensuite, je crois qu'il faut savoir répondre.
C'est une façon de se protéger. Je vais vous interrompre 30 secondes, comme ça vous pouvez reprendre haleine. Je pense que c'est la même chose en face. Je vendais le Libre Journal à la Criée au BBR de l'Île-de-France l'autre jour, et j'ai vu arriver deux jeunes que j'ai identifiés comme des contre-manifestants qui venaient aux informations, et ils m'ont abordé, ils m'ont parlé, ils m'ont avoué qu'ils avaient bien envie d'entrer. Alors j'ai deviné que c'était leurs copains qui les envoyaient au renseignement, et ils ont fini par m'avouer qu'ils n'osaient pas rentrer parce qu'ils avaient trop peur. Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous pensez qu'on va vous faire, qu'on va vous tuer? Ah non, mais on va nous taper sûrement. Et je dis, mais pourquoi? Parce qu'on est jeunes. Donc vous voyez, en face, il y a des gens qui, pour se protéger sans doute, préfèrent les histoires, préfèrent les histoires qu'ils racontent eux-mêmes sur l'adversaire plutôt que d'apprendre à le connaître vraiment.
Et ça, je pense que c'est donc important. Alors, nous avons fait une tentative. Je ne dis pas qu'elle sera parfaite. J'implore par avance l'indulgence des auditeurs de Radio Courtoisie qui achèteront ce dictionnaire. Je crois pouvoir leur dire qu'on a quand même essayé de faire un bon travail. Ça, je le dis avec fierté, avec Yves Daoudal, avec Georges-Paul Wagner, avec Jeanne Smith, avec Francis Bergeron, avec, parce qu'il y a beaucoup de signataires, avec Thierry Martin. Bon, Jeanne oublie, je ne les cite pas tous aujourd'hui, on les trouvera dans le dictionnaire, mais donc ça a été très exaltant pour nous, parce que pense-t-il, quel mensonge véhicule-t-il, et aussi utiliser les armes de l'adversaire, utiliser, parce qu'on ne lit pas beaucoup chez nous l'adversaire. Et là, je dois dire que j'ai reçu des articles que j'ai renvoyés, j'ai eu à demander l'indulgence d'un certain nombre de rédacteurs qui me disaient, par exemple, la preuve que Brasillach avait raison, c'est que Bardèche le disait. Bon, moi, j'aime beaucoup Robert Brasillach. Bardèche a été un ami, mais ce n'est pas ça de la réplique. Si je commence à dire la preuve que Beckett a raison, c'est que Goffman est d'accord avec lui, ça me rappelle les argumentations du Monde où M. Rolla dit la preuve que ce que j'écris est vrai, c'est qu'on le retrouve dans Libération.
De Maurras. Dreyfus est un traître parce que c'est un juif et ça prouve que les juifs sont des traîtres.
Voilà. Bon, alors je crois qu'il faut avoir un autre esprit et le but de notre vie n'est pas de vaincre nos concitoyens, il est de les convaincre.
Vous parliez de judo récemment dans une réunion il y a quelques mois, ça m'avait beaucoup frappé. Oui, c'est la même idée, non?
Ça me vient, c'est la même idée. Par exemple, prochainement, le président du conseil régional de Midi-Pyrénées, Martin Malvy, d'une grande lignée républicaine, entre guillemets, va inviter tous les républicains espagnols de Toulouse. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec les élections régionales qui arrivent, vous le pensez bien. Bon, alors, là, il faut bien réagir. Et j'ai vu mes amis qui se présentent aux élections, puisque moi, je n'en suis pas, cette fois-ci au moins, donc venu me dire qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire. Je leur ai dit, c'est là que l'on voit l'utilité tout de même de travailler, d'avoir des instituts culturels, d'avoir des journaux. Parce que je leur ai dit, avec le dictionnaire de la réplique, vous avez tout. Voilà. Bon, et si vous voulez réagir, je ne sais pas s'ils le feront, moi je le ferai en tout cas, mais dans ce dictionnaire de la réplique, ils trouveront les textes de Madame Clara Campoamor, qui n'était pas franquiste, qui était la présidente du parti radical espagnol, donc du camp républicain, dans lequel elle dit, parce que c'est une honnête femme, force est de constater que 90% des abominations ont été le fait de notre camp. Et elle décrit ces abominations dans ses mémoires. Si nous publions les mémoires d'un ancien franquiste, ça ne passe pas, ça ne convainc que les convaincus. Mais quand on donne à des jeunes gens les mémoires de Clara Campoamor, dont plus personne ne se souvient, là, à ce moment-là, on dit, si c'est elle qui le dit, c'est que tout de même, il devait bien y avoir une part de vérité.
Alors, je rappelle que le principe du judo, c'est d'utiliser la force de l'adversaire. C'est ce que vient d'expliquer Bernard Anthony sur le plan idéologique.
C'est ce que inventa Jigoro Kano lorsqu'il vit un petit matin de printemps la neige sur la branche du cerisier sur les flancs de Fujiyama.
Oh, suggestion, on aurait préparé un peu de musique japonaise, ça aurait illustré formidablement.
Je croyais que c'était le Golnisch, le japonisant du front.
Mais c'est contagieux.
J'ai été bien longtemps sélectionné pour un stage de judo au Japon.
Alors, il n'y a pas que Franco, il y a d'autres sujets qui sont évoqués. Il y en a combien ? 380 ?
Nous avons effectivement un grand nombre, 414 sujets.
414.
414
Ils
sujets.
Ils arrivent à dire des âneries sur 414 choses, les adversaires ?
Oui, mais je ne doute pas qu'on puisse faire un deuxième, un troisième, un quatrième volume. La seule chose qu'il ne faudra pas nous dire, c'est que vous n'avez pas tout dit. Bien sûr, nous n'avons pas tout dit. Cela serait complètement idiot.
Alors, un truc au hasard, par exemple, je me souviens, il y a quelques années, Rocard avait brillamment étincelé en disant, pendant des années, l'Église s'est posée la question, pendant des siècles, l'Église s'est posée la question de savoir si les femmes ont une âme.
Oui.
Alors, quelle réponse?
Ah oui, alors là, c'est...
Goffman, vous taisez.
Bon, là, ça tombe bien, parce qu'effectivement, on trouvera la réplique dans le dictionnaire de la réplique. La réplique,
et alors, elles ont une âme,
c'est ça qu'on veut savoir.
Non, Patrick, arrêtez, là, vous voulez que je parle sérieusement quelquefois tout de même. Ça tombe bien, parce que vous trouvez cela dans le dictionnaire de la réplique. D'où vient cette ânerie rocardienne? Mais Rocard n'a fait que reprendre comme ça une des nombreuses billevesées sur l'histoire de l'Église. En l'occurrence, c'était au concile de Mâcon, où un brave moine facétieux a dit à un de ses collègues, est-ce que les femmes, elles en ont pensé, on parlait de l'âme de l'homme, compris au sens évidemment du genre humain, homo, on parlait de homo en latin. Et le brave moine a fait cette petite astuce, ça a été repris par un brave copiste qui a cru donc faire un peu d'humour aussi, et c'est ainsi
que c'est arrivé
jusqu'à Michel Rocard, qui ne s'est jamais demandé si, par exemple, analphabète qu'il est en matière religieuse, s'il n'y avait pas dans la religion chrétienne en général quelqu'un qui s'appelle la Vierge Marie, et ensuite donc
il était protestant
qu'on soit désagréable avec nos auditeurs protestants qui ne sont pas quand même aussi analphabètes que Monsieur Rocard, et donc la réponse est très facile. Alors dans la réplique on trouve cela, sans compter que dès les toutes premières années du christianisme, les femmes jouent un rôle éminent, comme on le sait.
Qu'est-ce qu'il avait dit
à Paris, de Sainte Geneviève?
Et dans l'homme, j'embrasse aussi la femme. Pardon.
Sacha Guitry,
admirable, oui. Notre maître, quand on est venu à arrêter. En lui disant, c'est pour intelligence avec l'ennemi. Et il a dit, si c'est pour intelligence, je vous suis.
Bon, sur De Gaulle, il y a des trucs aussi?
Ah oui, on trouvera sur De Gaulle, parce que quand je lis sous la plume, je lis ce que dit M. Jean-Louis Debré aujourd'hui, je tiens à préciser que je n'ai pas oublié son papa. Parce que là, tout de même, dans le dictionnaire de la réplique, on réplique aussi aux mensonges historiques, mais il fallait bien mettre en exergue une des plus grandes abominations de notre temps. On n'a pas attendu, nous, cher Serge, monsieur Benamou, dont c'est le mérite d'ailleurs, pour dire ce qu'il y en a été de l'abomination contre les harkis. Bon, et donc, nous parlons du général de Gaulle, bien entendu. On parle de Michel Debré, bien entendu. Le général de Gaulle, alors à chaque fois, vous voyez, l'article, le nom est suivi de la phrase qu'on réfute. Alors, il faudra surtout pas que les lecteurs nous attribuent le mensonge ou l'imbécilité que l'on réfute. Alors, ce qui est réfuté sur De Gaulle, c'est De Gaulle rassembleur des Français. Bon, et comme rassembleur des Français, parlons-en, mais là, si vous me donnez le micro, les amis autour de la table ne pourront plus parler. Par exemple, nous avons traité aussi de Mao, phare de la pensée universelle. Ça, c'est du Giscard d'Estaing. Vous voyez que c'est très facile de trouver. Marx, l'anti-bourgeois par excellence. Il faut savoir que Marx était ce qu'il y a de plus horriblement bourgeois. On trouvera toutes les références. Il engrosse sa malheureuse servante et il va obliger Engels à l'épouser. C'est quand même un gag pour que la respectabilité bourgeoise de la famille soit préservée. Voilà. Alors, vous voyez, tout cela, dans le dictionnaire de la réplique, on le trouve référencé. Et je crois que c'est un bon outil de travail pour faire ensuite des tracts, par exemple.
Sur la résistance à gauche, il y a des choses aussi, non?
Oui, nous avons traité de cette chose-là aussi. Je crois que... Alors, nous sommes efforcés de tout référencer, de tout dater, que les citations soient exactes. Je ne dis pas que l'on fasse là du chimie de main pure. Il y a toujours une petite erreur qui aura pu se glisser, mais vraiment, nous avons travaillé. Et alors, par exemple, sur le monopole de la résistance par la gauche, on rappelle les faits, tout simplement, sur cette période troublée de notre histoire, où aujourd'hui, qu'on raconte aujourd'hui avec un manichéisme stupide, mais n'ouvrons pas le débat ce soir.
Non, je pose la question de la résistance parce qu'il s'est passé hier un événement intéressant, c'est que la police parisienne a célébré dignement le souvenir de la police parisienne en 40, puisque il y a un membre, il y a un comité étudiant du 11 novembre qui s'est créé sous l'inspiration de l'ancien président de la Corpo de droit en 1940 qui s'appelle Monsieur Pertuzio. Et ces jeunes gens se sont rendus à 19h sur les Champs-Élysées après avoir informé la préfecture de police de leur intention, pour déposer une gerbe sur la plaque du, enfin sur la, le, devant la flamme du soldat inconnu. Et ils ont été accueillis par la police, qui leur a interdit l'accès à la flamme du soldat inconnu, violemment, à coups de pied, coups de poing, coups de matraque. Forcément, c'était pas, c'est plus facile qu'à Barbès quand même de régler les problèmes dans ce coin-là.
Vous parlez du 11 novembre 1940 ou
non,
2003?
Non, là je parle du 11 novembre 2003 où les oui, non, c'est ça.
Ça s'est passé comme en 1940 alors?
Oui, c'est ça.
Enfin, il manquait que les Allemands.
Il manquait que les Allemands, mais on les a pas fusillés. Encore qu'il devait y avoir quelques touristes allemands. C'est vrai que maintenant, c'est plus facile de rentrer avec des valises qu'avec des fusils. Hein. Voilà, je voulais simplement signaler ça pour montrer.
Et on trouvera là-dessus beaucoup de choses dans le dictionnaire de la réplique.
Et moi, Serge, est-ce que je peux essayer de vendre le canard enchaîné à Bernard Anthony? Je crois que j'ai les moyens de le convaincre, parce que, bon, le canard enchaîné, vous le savez, si vous écoutez France Inter, sur cette station d'État, a eu un quart d'heure de publicité gratuite tous les mardis soirs. Mais on va se joindre à France Inter ce soir, parce que, en page 2, je vois un dessin du prestigieux Pétillon, l'auteur de l'enquête corse, là, qui est intitulé « Lundi de Pentecôte, Décato Renacle ». Alors évidemment, comme vous sans doute, je me suis demandé qui étaient ces cathos indéfinis. Et j'ai cherché dans tout le journal, je ne suis pas allé loin. En page 3, un article, un petit article s'appelle « Raffarin lâché par l'Église ». Et donc le canard enchaîné, sans aucun commentaire ni ironie, rappelle comment au mois d'août, plusieurs évêques, à commencer par les plus éminents si j'ose dire, Mgr Lustiger, Mgr Henri Carcinon-Rien, etc., se sont déclarés favorables à la suppression du lundi de Pentecôte. Et puis, changement de fusil d'épaule, maintenant ils sont contre sa suppression et le canard cite des déclarations au Figaro, à la Croix, etc. Et le canard se demande pourquoi les évêques ont changé d'avis. Et il donne cette explication, je cite, « Ce changement de cap ne doit rien au hasard. Les évêques viennent de se faire sonner les cloches par les cathos d'en bas. » En effet, si le lundi de Pentecôte n'est pas une fête religieuse, il est mis à profit par une foultitude de mouvements cathos pour organiser qui un pèlerinage, qui un jamboree pour les scouts, qui une retraite spirituelle. Ces événements rassemblent plusieurs dizaines de milliers de bons chrétiens, aujourd'hui frustrés. Il ne reste plus qu'à renvoyer Raffarin et Bernadette à Rome se faire prendre en photo avec le pape pour les calmer. Alors vous voyez, Bernard, on est souvent à se plaindre de prêcher dans le désert ou de ne pas être écouté ou d'être réduit à l'impuissance, mais il me semble là que comprendre que les cathos en question, c'est vous, de même que l'affaire Sniper qui a connu un épilogue provisoire à la tribune de l'Assemblée avec la plainte de Sarkozy, il me semble bien que c'est nous aussi qui en sommes à l'origine.
Oui, je crois qu'il y a une mobilisation du pays réel catholique, tout mouvement de tendance confondu et ayant toujours pratiqué pour ma part l'amitié française, je ne puis que me féliciter de cela. Alors, en l'occurrence, par exemple, évidemment, la griffe, qui est le mouvement le plus important de la résistance nationale après le parti politique que l'on sait, donc œuvre de son mieux, mais avec une foultitude d'autres associations. Il faut rendre au cœur montjoie ce qui est au cœur montjoie, par exemple, et je crois qu'il a été l'initiative, nous l'avons tout de suite suivi, hein, parce que de cette réaction, donc sur le parvis de Notre-Dame l'autre jour.
Et, oui, c'est l'association qui s'appelle
Les Amis du Lundi, et nous approuvons entièrement ce qu'ils font. Et
ça a été une réussite brillante, leur opération. Puisque, alors, c'est même un événement considérable, puisqu'ils avons rassemblé hier, sur le parvis de Notre-Dame, des personnes qui étaient hostiles à la suppression du lundi de Pentecôte. Et c'est un événement considérable à deux titres. Le premier titre, c'est que s'est joint à cette manifestation la CFTC. Quand même, là, c'est important, mais c'est pas n'importe quoi. Et deuxièmement, pour la première fois, je crois, dans l'histoire des manifestations en France, quand on a demandé aux organisateurs combien étiez-vous, ils ont donné un chiffre, et la police a donné exactement le même chiffre, c'est-à-dire 1500 personnes. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que les organisateurs de cette manifestation ne sont pas les joueurs de pipeau que sont habituellement les organisateurs de manifs qui comptent les pieds, multiplient par 4 et ils enlèvent 10%. Hein. Donc ils ont dit 1500, la police qui est capable de compter jusqu'à 1500 en gros, ça ne pose pas trop de problème, surtout quand c'est en face de la préfecture, ils ont confirmé. Et donc, on a pour la première fois des organisateurs de manifestations qui ont dit la vérité. Comme par hasard, c'est des catholiques de tradition. C'est plutôt pas mal. À propos de sniper, j'ai au téléphone, sauf erreur de ma part, Fabrice Robert. Je vais chausser un casque. Voilà, c'est à l'endroit tant qu'à faire. Fabrice Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous avez été, avec les jeunes identitaires, un des agents ou un des organisateurs de la réaction à l'affaire Sniper. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer cette affaire qu'on évoquait à l'instant avec Bernard Anthony ? Je sais que la griffe a joué un rôle également important.
Bien sûr, oui. Bon, tout d'abord, merci de me donner la parole. Je rappelle brièvement ce qu'est ce groupe Sniper, donc groupe de la région parisienne, donc numéro 1 des ventes rap en France, et surtout auteur d'un titre qui s'intitule « La France », dont je cite quelques extraits. « La France est une garce et on s'est fait trahir. On nique la France sous une tendance de musique populaire. Faudrait changer les lois et pouvoir voir bientôt à l'Elysée des Arabes et des Noirs. Frère, je lance un appel, on est là pour tout niquer. Mon seul souhait désormais est de nous voir les envahir. » Bon, le message est bien clair. Nous, en tant qu'identitaires, depuis le mois de mai, on a décidé de faire la guerre à Sniper. Voilà, parce qu'il est intolérable de voir un groupe comme ça qui se fait de l'argent, qui se construit son business sur la haine anti-française et anti-blanche, alors que chaque jour, des jeunes Français se font agresser par la racaille. Voilà, donc on a commencé le militantisme traditionnel, hein, tractage, collage devant les Virgin et les Fnac, puis on a décidé de passer à l'étape supérieure, donc on a mis en place l'action de lobbying. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Sniper se produisait en concert, on diffusait les fax, numéros de téléphone et e-mail des organisateurs, de la préfecture, de la mairie et de la salle de concert. Alors il faut savoir une chose, c'est que lorsque moi j'envoie un communiqué de presse, je touche à peu près 5000 personnes. Donc il suffit que 200 personnes se mobilisent dans la journée, imaginez un peu les standards qui explosent.
Mmh.
Voilà.
Et les résultats, ça a été quand même assez positif, enfin, c'était très positif, c'est-à-dire qu'il y a des mairies d'abord qui ont annulé les concerts parce que on a découvert, les responsables locaux ont découvert ce qu'était Sniper et les textes répugnants de ce groupe de tarés.
Oui.
Et ensuite, il y a eu des procès qui ont été engagés où la chanson raciste sur la France contre les Français a été interdite. Grâce d'ailleurs aux avocats de la griffe, en l'occurrence. Et puis, maintenant, ça continue. Je crois que le prochain concert de Sniper qui est prévu, c'est à Lille.
À Lille, oui, donc le 28 novembre.
Dont le programmeur ou le programmateur, je ne sais pas comment il faut dire ça, ça doit se passer dans un endroit qui s'appelle.
L'aéronef.
L'aéronef, c'est ça. Et le programmeur de l'aéronef ou le responsable de la communication qui s'appelle Éric Morange.
Voilà, c'est ça.
Alors lui approuve totalement les propos de Sniper, envoie promener les gens qui protestent et en guise de conclusion explique que pour des raisons citoyennes il faut protéger la liberté d'expression et que lui il est particulièrement attaché à la République et à la citoyenneté démocratique parce qu'il est fils d'un colonel de gendarmerie. Ce qui est quand même, alors ça reste à vérifier parce qu'il semblerait qu'il n'y ait pas plus de colonel de gendarmerie qui s'appelle Morange que de beurre en broche, mais enfin
il y a du talc par contre,
il y a du talc
empoisonné.
Oui.
Bon, sur place nos militants déjà se mobilisent. Bon, surtout ce qui est intéressant dans le cadre de l'affaire Sniper, c'est qu'on a réussi à refaire l'unité à la base. Souvent, on est habitué dans la mouvance à avoir des chœurs à deux chapelles. Là, on a réussi, un exemple, à Mulhouse, quand on a fait un tête de concert, on avait réussi à fédérer des gens comme Frelay, donc les conseillers municipaux de Mulhouse, Frelay et les responsables des abords. On a réussi à travailler à Quimperlé et à Rosé avec le MRB de Guimaud. Voilà. Et surtout, on a réussi aussi à travailler avec la griffe. Donc, on remercie beaucoup parce que on a réussi, grâce à la griffe, à judiciariser l'affaire. Donc à imposer la présence d'huissiers dans les salles de concert pour constater tout dérapage verbal. Voilà.
Fabrice Robert, je vous remercie. Vous tenez-nous au courant de la suite de cette affaire. Je pense qu'elle est importante parce que elle pose réellement le problème de la, non pas de la liberté d'expression, mais de la liberté d'injurier les Français sur leur propre territoire national. Il faut savoir si on va tolérer encore longtemps que des bandes de racailles viennent nous annoncer qu'ils vont niquer nos maires, niquer notre pays, qu'ils vont brûler nos voitures, qu'ils vont flinguer les ministres, comme ils le disent, et qui vont buter les keufs, c'est-à-dire tuer les policiers. Je me demande jusqu'à quand on va pouvoir admettre ça. Alors, vous êtes en pointe avec la griffe et avec un certain nombre d'autres organisations et groupes militants dans cette affaire. Et je vous invite donc à nous tenir au courant dans les prochaines émissions de l'évolution de cette affaire.
Merci,
à bientôt.
Au revoir.
J'ajouterais quand même un petit point, c'est que ce groupe a été menacé d'un procès par Sarkozy. Et Sarkozy les a menacés de procès en disant que c'était parce qu'ils tenaient des propos antisémites. Or, j'ai écouté les chansons du groupe Sniper, et justement pas, il n'y a pas un seul mot antisémite dans leurs chansons. C'est assez curieux, parce que c'est quand même des gens qui se prétendent proches des beurs des cités, et qui prétendent soutenir la cause palestinienne. Donc, on sait que quand on est antisioniste, on est forcément antisémite, bon, ça, on connaît la règle. Mais, au contraire, ils accusent, eux, dans leurs chansons, les Français d'être antisémites. Simplement, ce qu'on a constaté, c'est que d'une part, quand ils ont été accusés de ça par Sarkozy, immédiatement, ils se sont mis à plat ventre, et ils ont présenté toutes les excuses qu'on a voulu en disant, mais pas du tout, du tout, on n'est pas du tout, du tout antisémite. Donc ça, c'est vraiment l'argument qui tue. C'est l'accusation qui tue. Et Sarkozy, lui, a dit, malheureusement, on ne peut pas poursuivre ces gens-là, parce que la prescription est passée. Alors, je vous signale donc qu'il faut quand même bien réfléchir. C'est que l'argument de la prescription est passé, ça vaut pour un texte écrit. Le texte a été publié le 1er janvier, par exemple. La prescription est de 3 mois, c'est-à-dire 1er février, 1er mars, 1er avril. Après, c'est terminé, la prescription est complète, et on ne peut plus poursuivre le texte. Mais il est évident que si un type monte sur une scène et lit ce texte, il renouvelle le délit. Par conséquent, ou Sarkozy ignore tout de la loi française, ou il nous prend pour des imbéciles. À mon avis, c'est la deuxième explication qui est la bonne. Il nous prend réellement pour des imbéciles, et d'ailleurs, comme je le dis toujours, ils ont bien raison de nous prendre pour des imbéciles, puisque la preuve, c'est qu'ils sont au pouvoir, et que ce pays, qui considère comme un pays de crétins, les a portés au pouvoir, ce qui est la meilleure preuve qu'ils ont raison de penser ça.
Il y a une autre explication, Serge, c'est que Sarkozy n'était pas très désireux de poursuivre le groupe Sniper, et qu'il le faisait sous la contrainte, et notamment sous la contrainte, et là nous prolongeons le propos de Fabrice Robert, et nous avons expliqué tout ça dans le numéro en cours du Libre Journal, hein, numéro 306, sous la contrainte notamment du syndicat général de la police. Et là encore, comme dans cette histoire de lundi de Pentecôte, on voit que vraiment pour nous en ce moment, pour les gens qui nous sont proches, ça vaut le coup de lutter, ça vaut le coup de se battre, parce qu'on trouve systématiquement des alliés inattendus. Le syndicat général de la police a écrit une lettre solennelle à Sarkozy au sujet de Sniper. Sarkozy l'a classé verticalement, l'a mise à la poubelle. Pas de chance, quelqu'un à l'AFP a mis cette lettre sur le fil, comme on dit dans notre jargon de presse, c'est-à-dire qu'il a publié cette lettre. Et à partir du moment où elle a été reprise par erreur ou intentionnellement par d'autres amis inconnus dans les journaux, Sarkozy a été obligé de dire devant l'Assemblée qu'il allait porter plainte. Alors naturellement, on a aussitôt travesti cette victoire de telle façon que les gens qui écoutent les informations d'une seule oreille pensent si possible que c'était encore nous qui étions en cause et en tort quand les journalistes des gros médias ont dit Sarkozy porte plainte contre un groupe raciste et antisémite. Les gens qui écoutent d'une oreille ou qui sont un peu malentendants ou mal comprenants se sont dit ah, Sarkozy porte encore plainte contre l'extrême droite. Mais bien sûr que non, il a été forcé et contraint parce que à l'initiative de Fabrice Robert, avec notre renfort, le renfort du Libre Journal, de la griffe, de tout un tas de gens, le combat a été mené avec énergie et avec intelligence, comme des judokas, comme nous le disions tout à l'heure. Et on l'a vraiment mené à un terme tel que, il faut le dire, ça vaut le coup de se battre en ce moment. On peut obtenir des résultats spectaculaires.
Alors, Monique Delcroix, à propos de... Qu'est-ce que vous voulez, vous, Victoria?
Je vous fais
un sémaphore.
Il faut rappeler, il faut toujours rappeler que Daniel Cohn-Bendit avait pu, excusez-moi, impunément aller pisser sur la tombe du soldat inconnu et qu'il est maintenant reçu comme un hôte de marque tant à l'Assemblée que dans les médias.
Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait électrifier le truc du soldat inconnu. Comme ça, il fait ça une fois, il ne recommence plus jamais après.
Monsieur Anthony, à quoi cela a-t-il servi au général Franco de protéger des Juifs, puisque depuis 1945, sa mémoire, et surtout depuis sa mort en 1975, n'a jamais cessé d'être insultée par les judéo-maçons démocrates?
Non, mais Bernard vient de dire le contraire.
C'est faux, c'est tout à fait faux. Il y a Dieu merci, des Juifs qui ont l'honneur de lui rendre hommage, et voilà, c'est tout à fait faux.
à Brooklyn. En fait-on autant pour...
Le général Franco est trahi surtout par les anciens phalangistes, hélas, du mouvement. Il est trahi par les bons catholiques espagnols, beaucoup plus que par ces juifs, je dois le dire. On est souvent trahi que par les siens, mais en Espagne, mais ça nous ouvrirait tout un débat sur la question.
À Brooklyn, en fait-on autant pour Pie XII que pour Franco, lui aussi, oui, a oui, sauvé
oui,
des
oui,
juifs.
Oui, Judith Cabot, qui est notre grande amie, écrivain de talent, d'origine juive convertie, a écrit d'admirables livres sur le sujet. Et comme on le sait, le grand rabbin de Rome, avant de s'en convertir au catholicisme, donc Serge connaît ce dossier parfaitement, a écrit un grand hommage au pape Pie XII. Et Golda Meir, rendait hommage au pape Pie XII. Et beaucoup de juifs éminents. Il faut distinguer, je crois, ces juifs-là de lobby gauchiste et comment dirais-je, idéologique. La vérité est la vérité.
Et un auditeur aurait souhaité que vous rappeliez sommairement ce qu'était la griffe.
Eh bien, à cet auditeur, je rappelle que l'Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne est par excellence, décidément ce soir c'est une soirée judo, Patrick, donc l'utilisation, donc dans la, comment dirais-je, dans le style du judo, d'une loi qui ne nous est pas très sympathique a priori, mais nous sommes dans le cadre des lois existantes, on peut avoir envie de les changer, mais on peut avoir envie aussi de les utiliser. Et c'est ce que nous avons fait avec la griffe. La loi Rocard-Gesso, chevillée sur la loi Pleven, Annie Kriegel, la grande éditorialiste de Tribune Juive, qui a rendu d'éminents services après avoir été stalinienne, elle a été une anticommuniste convaincue, a écrit un jour dans le Figaro contre l'intolérable police juive de la pensée, fermée les guillemets. Eh bien, cette loi, je l'ai examiné. Et un jour, j'ai été indigné par le fait qu'une vieille dame de Montpellier avait été condamnée durement parce qu'elle avait publié une petite annonce dans Midi Libre. Elle cherchait un locataire chrétien et français. Pourquoi ? Elle n'était pas très riche. Elle avait un fils infirme. Il fallait boucler les fins de mois. Elle veut naturellement un locataire qui ne soit pas très différent d'eux. Et à ce moment-là, elle est poursuivie. Ça m'a tellement indigné que je me suis dit il faut faire quelque chose. Et c'est ainsi que j'ai rencontré les avocats, enfin que j'ai réuni nos amis avocats, Maître Le Driel, avocat à la Cour de Cassation, Saint-Just, Trémollet, etc. Et c'était parti, et nous avons lancé ce mouvement, mais je ne vais pas abuser ici, qui lutte donc pied à pied, qui va organiser à Orange le 3 avril prochain une grande convention nationale, au Palais des Congrès de la bonne ville d'Orange, grande convention, avec, je l'espère, une centaine d'avocats, avec plusieurs centaines et peut-être même plusieurs milliers de participants, parce que nous devons effectivement, nous, être l'élément de combat judiciaire qui est complémentaire ou qui anticipe après toutes les autres formes de réaction que je salue. Je crois que nous faisons en ce moment un bon travail de mobilisation du pays réel français.
Et l'adresse, c'est 70
Boulevard Saint-Germain. Et on y trouve généralement le mardi, le mercredi, le jeudi, Hélène Sabatier, qui n'aime pas beaucoup parler dans le poste. Mais elle est là à côté de moi, elle me regarde d'un œil sévère. Non, elle n'a pas le droit de parler.
Pas d'âme.
Y a-t-il une réplique à l'antiracisme dans votre dictionnaire ?
Écoutez,
sur le terrain, ça nous serait bien utile.
Eh bien, écoutez, nous avons fait ce que nous pouvions. Mais là, quand on vient au boulevard Saint-Germain, on trouvera nos argumentaires. Et bien entendu, dans le dictionnaire de la réplique, j'ai fait un article, mais je ne veux pas abuser, assez marrant, sur ce projet émis par des députés communistes, repris par quelques députés de la majorité, d'interdire le mot de race. Alors là, je dois dire, on peut s'en donner à cœur joie, parce que, voyez-vous, donc il faut interdire le mot pour supprimer la chose. C'est absolument extraordinaire. Interdisons le mot alcoolisme, il n'y aura
plus
d'alcoolique. Enfin, voilà.
Interdisons le mot imbécile, il n'y aura plus de communiste.
J'ai traité de cela, donc effectivement, abondamment.
Donc je peux donner la parole à Monique Delcroix maintenant, Victoria.
Où peut-on acheter le dictionnaire de la réplique ? À quel prix ? Mettre le chèque à quel ordre ?
Voilà, à l'ordre du Centre Charlier, C-H-A-R-L-I-E-R, 70 boulevard Saint-Germain, au prix de 40 euros frais de port compris. Je précise bien que c'est un dictionnaire cousu, c'est-à-dire, ça n'est pas un livre qui se casse. Nous avons voulu faire quelque chose qui est peut-être un peu plus cher, mais qui permet d'être bien utilisé.
Cousu main,
exactement.
Et l'ordre du chèque, c'est...
Centre Charlier,
d'accord.
Ça y est ?
Ce coup-là, ça y est.
Bon, alors... Monique Delcroix.
Merci, Serge de Bécasse.
Il faut vous rendre à votre maître, votre seigneur et maître. Hein, c'est là qu'on peut employer ce mot-là. Il faut savoir quand même que Monique Delcroix a la chance, d'habitude on dit le contraire, moi je veux dire dans ce sens-là, a la chance d'être l'épouse de maître Éric Delcroix.
C'est surtout maître Éric Delcroix qui a la chance d'avoir une telle épouse.
Apporter un peu de cirage. Alors... Et Monique, vous avez 5 minutes pour nous convaincre enfin moi ça y est, je suis convaincu,
on fera
avec ma petite femme le samedi 15 novembre 2003 au Palais des Congrès de Versailles. Mais les auditeurs, il faut peut-être les convaincre en leur disant pourquoi, comment, où et toutes ces sortes de choses.
Eh bien, je vais leur dire tout ça alors en 5 minutes. Donc d'abord, merci à vous, Serge de Bécasse, de m'avoir invité pour présenter cette seconde fête de l'identité. Donc comme vous l'avez dit, elle a lieu samedi, le samedi qui vient, à Versailles. Donc c'est au Palais des Congrès, c'est très facile d'accès, c'est face au château. Quand on regarde le château, c'est sur la gauche.
On peut
donc,
se garer, il y a
on
un
peut
bon
se garer
restaurant.
Très facilement. Oui, oui, il y a de nombreux restaurants. On peut se garer très facilement. Et pour ceux qui utilisent les transports en commun, c'est le RER C5, station Versailles, rive gauche. Donc cette année, c'est à Versailles. Attention, parce que l'année dernière, donc la première fête de l'identité avait eu lieu à Paris, Salvagram. Ça avait été d'ailleurs un très beau succès. Et de nombreuses personnes nous ont demandé de recommencer. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Donc je pense que tous ceux qui sont venus l'année dernière ont très envie de revenir. Et donc on va essayer de donner envie à ceux qui n'étaient pas venus l'année dernière de venir. Alors avant de vous en présenter le programme, je tiens à préciser que cette journée ne s'inscrit dans aucun cadre politique au sens électoral du terme. On nous demande souvent, mais qui organise cette fête? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Les gens ont toujours très très peur de ce qu'il peut bien y avoir derrière. Alors derrière, il n'y a rien. Il y a uniquement des bénévoles, des personnes qui se sont rassemblées pour essayer d'organiser une journée où on va retrouver, disons, toutes les diverses tendances qui forment ce qu'il est convenu d'appeler la grande famille nationale, mais il n'y a ni parti politique, ni chapelle, uniquement une volonté de se retrouver autour de l'essentiel. Alors l'essentiel, bon, bah, c'est justement le choix de ces deux mots, l'identité et les libertés. Bon, l'identité, je crois que c'est quand même un combat qui est commun à tous, même si on met peut-être pas exactement les mêmes nuances derrière le mot identité, mais enfin, je pense quand même qu'on peut se retrouver derrière ce mot. La liberté, bah, parce que la liberté, c'est la condition même du combat, et on sait bien qu'aujourd'hui
enfin, c'est... Nous, on est plutôt pour les libertés.
Mais... Oui, mais il y a un S d'ailleurs. Faites de l'identité et des libertés.
Voilà, c'est ça.
Bon, donc la journée. Alors la journée, comme l'an dernier, s'articule autour de nombreux stands et de débats. Donc je précise pour ceux qui s'étaient plaints l'année dernière que cette année, les débats auront lieu dans une salle à part. Donc les gens qui tiennent à suivre les débats et à y participer ne seront pas gênés par le bruit qui se crée naturellement autour des stands.
Et si ça ne vous intéresse pas, vous aurez le droit de sortir de la salle aussi.
Oui, mais oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait une certaine circulation. Donc des stands, il y en a beaucoup. Alors c'est aussi l'occasion de faire des achats de Noël, hein. Depuis le champagne jusqu'aux bijoux, en passant par les objets pour décorer la maison. On aura même une costumière historique cette année. Donc je crois qu'il faut en profiter, parce que mieux vaut faire travailler les gens de chez nous que, enfin, disons, que les autres, hein, que les grands magasins, les choses comme ça. C'est en général moins beau, plus cher, et encore une fois, c'est une question de discipline, dirais-je, de faire travailler les gens de chez nous.
Sans donc, oublier une cinquantaine d'auteurs prestigieux.
Voilà, alors merci, j'allais y venir. Donc bien sûr, il y a aussi beaucoup de disques, de livres, de stands de livres, avec des auteurs qui viendront dédicacer leurs livres. Alors je ne vais pas les citer tous, risquerai d'en oublier.
Non, mais il faut citer les principaux quand même, c'est-à-dire tous en fait.
Tous ?
Ils sont tous principaux.
Ah, bah, écoutez, moi je comptais surtout signaler la présence de François Brignot, Jean Mabir, Georges-Paul Wagner, qui sont quand même des gens qui ne se déplacent pas pour rien, si j'ose dire.
Oui.
Enfin, donc on ne les voit pas tous les jours, donc c'est le moment d'en profiter.
Ça fait que les autres se déplacent pour rien.
Hein. Je n'ai pas dit ça.
Pas parti,
je n'ai pas dit ça.
Bon, d'accord.
ADG alors, est rarissime.
ADG est rarissime, oui. C'est très, très vrai. Ça ressemble de Rivarol avec Anne Brassier.
Anne Brassier de Versailles n'a aucun mérite.
ADG, Almeras, Bouclier, Bouzard, Brassier, Brignot, Char, Chevalerias, Éric et Monique Delcroix. Guillaume Faye, Henri de Fersan, Philippe Gauthier, Pierre Hilard, Hubert Collère, Laurent Lagartant, qu'on a reçu, Christian Damasière, voilà, un autre aussi qui ne se déplace pas pour rien, Éric Lefebvre, Jean Mabir, qui ne se déplace pas non plus pour rien,
Jean-Louis
pareil, Benoît Mancheron, qu'on aura plaisir à voir, Laios Martin, qui a fait un bouquin formidable récemment, Pierre Demeuse, Jérôme Moreau, Alain Pascal, collaborateur épisodique du Livre Journal, Olivier Pichon, Michel de Ponsin, Philippe Prévost, Daniel Raffard de Brienne, qui vient de publier ses mémoires. C'est un livre que je vous recommande, qui est d'un charme, d'une drôlerie, vraiment, c'est un merveilleux petit bouquin. Philippe Randa.
Non, il vient de se décommander.
Ah bon? Bon, bah, tant mieux.
Pas de Randa.
Il est trop grand et trop beau, donc il attire tous les regards des dames, ça laissera un peu pour les autres.
Bon débat.
Pierre Routier, Alain Anders, François-Xavier Sidos, Jean-Cyle de Ventavon, qui vient de publier deux bouquins coup sur coup. Roger Thébib, Jean-Claude Vallat, Pierre Vial, Pierre de Villemarais, Georges-Paul Wagner. Ça fait du beau monde, ça, quand même. Hein, il n'y a pas Bernard Anthony.
Je peux pas être partout. Hein.
Ah bah ouais, mais alors il faut corriger immédiatement cette absence. Voilà, bah, c'est très bien. Alors ça se passe.
Donc, merci donc d'avoir lu cette liste d'auteurs. Donc, il y a aussi des débats. Donc, ça commence à partir de 10h. Le premier débat sera sur le thème islamisme et communautarisme avec Alain Chevalerias, Guillaume Faye, Robert Spiller. Et alors là, il est animé par un invité surprise dont je ne vous dévoilerai pas le nom puisque c'est une surprise, mais je vais quand même donner quelques indices. C'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup lire une fois par semaine, quelqu'un qui écrit bien, quelqu'un qui parle bien et qui parfois porte une barbe et parfois n'en porte pas.
Il vient de Toulouse.
Voilà. Alors maintenant, je n'en dirai pas plus.
Il a un boule de gomme.
Mais il mérite bien d'arriver dès le matin pour le voir.
Alors, ce que je voulais, là, il y a quand même un message qui nous dit « Non, madame, vous ne pouvez pas dire que derrière il n'y a rien. Il y a au moins un antichristianisme discret, mais très net. Vous êtes des païens. » Alors, je vous signale que si vous voulez voir des païens, vous aurez le plaisir de voir M. l'abbé de Tannouarn, Jean Madiran, dont on a déjà cité, qui on pourrait dire encore comme païen, Daniel Raffard de Brienne,
Serge de Becketch aussi,
président de l'Association des écrivains catholiques, Jean-Cyle de Ventavon, qui est un assez joli modèle de païen aussi dans son genre. Il y a Georges-Paul Wagner aussi, qui est bien comme païen. Notre ami Benoît Mancheron, qui est pas mal païen aussi. Et Anne Brassier, qui est païen aussi. Oui, il va y avoir Henri de Fersan, qui est païen aussi. Là, de ce côté-là, on va pas manquer de païens. Monsieur, vous savez, moi, je serais vous, j'économiserais mon téléphone, parce que pour dire des bêtises pareilles, c'est pas absolument nécessaire de dépenser. Combien ça coûte une communication téléphonique maintenant? C'est cher.
Oula, c'est plus maintenant, c'est tellement varié.
Voilà. Bon. Donc, deuxième fête de l'identité et des libertés, poilonnée, bien entendu, le samedi 15 novembre 2003, Palais des Congrès de Versailles, 10 rue de la Chancellerie, 78 000 Versailles. Vous vouliez dire encore quelque chose?
Ah non, je voulais présenter le débat, mais...
Vous voulez lire le programme?
Oui, on peut tourner la feuille, elle a un recto et un verso.
3 minutes,
donc,
alors.
Très rapidement. Je dois aussi faire un petit rectificatif, parce que sur certains tracts, on a annoncé la présence du chœur montjoie. Le chœur montjoie ne sera pas là, tout simplement parce qu'il est ailleurs. Donc, il était tout à fait d'accord pour venir. Donc, là aussi, c'est pas vraiment un ramassis de païens. Hein. Il était tout à fait d'accord pour venir. Donc, il sera là à la troisième fête de l'identité et des libertés en 2004, mais il ne sera pas présent samedi, donc je tenais à le dire pour qu'on ne nous accuse pas de publicité mensongère. Donc ça sera uniquement le docteur Merlin qui nous réjouira par ses chants.
Donc, ça, ce sera vraiment païen, alors, pour le coup.
Ah, ben, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Et puis on trouvera les CD du Chœur Montjoie Saint-Denis qui seront en vente, du Chœur Montjoie, pourquoi je dis
ça? Si on trouve des CD, c'est bien.
Voilà, ils y seront. Ils y sont moralement. Ensuite, en début d'après-midi, les réalités européennes. Alors, comme c'est notre Europe et pas la leur, il y aura un Suisse et pas de Turc, plusieurs personnes. Ensuite, un débat très important, puisqu'il est animé par Serge de Becketch avec Pierre Vial et Jean-Gilles Maliarakis. Donc, l'objectif sera surtout de ne pas les laisser parler trop longtemps.
Oui, en plus, ils m'ont donné ce débat animé parce que c'est un sujet auquel je connais absolument rien. Donc, je risque pas d'intervenir.
Mais vous poserez des questions judicieuses.
Voilà. Oui, ça,
forcément. Ensuite, à 16h, un débat sur les droits de l'homme. Donc, donc avec l'abbé de Tannoine, Pierre Chassard, Pierre Demeuse, animé par Éric Delcroix. En fin d'après-midi, à la suite d'un film qu'on aura projeté en boucle tout l'après-midi, un débat sur le combat de demain, uniquement avec des jeunes gens, j'entends bien. Et ça se terminera sur une soirée musicale qui ne ressemble pas du tout à celle de l'année dernière, parce que c'est pas le même style, donc il n'y a pas de concert riff, mais ça sera pour tous les âges, en particulier on pourra danser. Voilà.
Merci, ce que j'avais à dire. Merci. À bientôt. Et maintenant, alors, je me tourne vers le docteur Willem, parce que docteur Willem, vous avez été d'une patience d'ange. On sent l'homme, comment dirais-je,
de
l'homme de l'art, mais l'homme surtout qui est installé dans ses, dans sa sérénité. Voilà, c'est le mot. Comment allez-vous?
Ça se passe bien.
Bon, je vous ai demandé de venir ce soir pour parler de deux sujets, mais on va venir tout de suite au sujet que vous venez de traiter dans un livre que vous avez intitulé « Au diable
la vieillesse ».
La vieillesse.
Oui.
Vous croyez que c'est un titre très réjouissant.
Mais je suis même plus sûr du titre.
Ça doit être...
Non, mais la vieillesse.
Au diable l'artérite.
Ah oui, non, arthrose-arthrite. Voilà. Au diable. Oui, oui.
Alors évidemment, c'est des maladies de vieux, je le sais bien, je commence à en être atteint.
Ah non, mais ça commence déjà à 10 ans, où il y a certains sont déjà atteints par l'arthrite. Hein. Non, c'est une, j'allais dire, c'est une pathologie universelle en France. Je ne sais pas, il doit y avoir à peu près 15 millions de Français qui ont une tendinite, qui ont une fibromyalgie ou une, quand vous pensez par exemple vous avez la spondylarthrite ankylosante, c'est des pathologies, alors que ils sont soumis donc à des, comment je vais dire, à une pléthore de produits chimiques, alors qu'on a des...
Alors c'est ça l'intérêt de votre bouquin une fois de plus, hein, parce que vous êtes un spécialiste de cette médecine là, c'est que vous ne prêchez pas pour des chimiothérapies, puisque c'est à ça que ça revient, même si on parle toujours de ça à propos du cancer. Mais tous les médicaments chimiques sont des chimiothérapies. Donc vous allez plutôt dans le sens d'abord d'un diagnostic plus pointu. Hein, vous essayez d'établir vraiment les origines de la maladie. Oui. Et ensuite, vous faites des propositions tout à fait intéressantes pour le traitement en douceur de ces maladies qui sont essentiellement des maladies douloureuses.
Oui, oui. Hein? Et on a des résultats parce que, donc, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit hors antenne, donc je m'occupe de 3 championnes du monde d'athlétisme.
Dont on ne dira pas les noms. Parce que,
dont on ne dira pas les noms. Et puis des acteurs, etc. Donc qui emploient cela, mais qui n'ont pas le droit de le dire parce que vous allez faire basculer le monde allopathique vers le monde plus naturel. Alors on a un arsenal incroyable dans les plantes, c'est évident. Quand vous voyez par exemple que vous avez, j'en pas beaucoup les huiles essentielles, vous avez eu 2 huiles essentielles qui recèlent 99% d'aspirine dans leurs molécules. Hein. Vous avez par exemple la Gaultérie et vous avez le bouleau jaune. Et alors il y a une notion en plus que je dis toujours de cosmogonie, c'est-à-dire là où il y a la pathologie, là il y a le remède. Et alors ces plantes poussent au Canada. Au Canada, on sait que c'est humide, il fait froid, etc. Chez nous aussi, hein, vous avez par exemple le saule, il recèle de l'aspirine dans sa formule. Vous avez la reine des prés, l'ulmère. Tout cela pousse là où il y a des rhumatismes. Donc, si on regardait un petit peu, si on élevait le débat, on se rendrait compte donc qu'il y a des solutions.
Où le péché prospère, la grâce surabonde. C'est ça, où le péché abonde, la grâce surabonde, on dit.
C'est exactement ça,
où la maladie prospère, le médicament surabonde.
On est dans le contexte. Bon, il faut évidemment parler aussi de l'alimentation. D'abord, on bouffe de trop, ça c'est évident. On en a parlé dans le...
Or, Bernard, vous ne prends pas cette terre mécontent, c'est pas ton cas.
On en a parlé, par exemple, pour le cancer. On bouffe vraiment de trop, puis on met son corps donc en alcalose. C'est pour cela qu'on se rend compte de plus en plus que pour faire des centenaires, il faut manger beaucoup moins et puis procéder à des réductions alimentaires.
On a le choix entre mourir d'un cancer ou mourir de faim, en gros, c'est ça.
Ah non, on ne meurt pas de faim. J'ai jamais vu quelqu'un, au contraire, il y a une purification, une élimination donc des toxines. Hein. Alors c'est pour ça, du reste, qu'il y a le carême et le ramadan. Mais malheureusement, les religions ne disent pas pourquoi. Moi, à mon avis, Dieu préfère être, comment je vais dire, loué par des gens en bonne santé que maladif. Alors, il y a une intelligence cellulaire quelque part. Pourquoi les trois religions, donc monothéistes, surtout les chrétiens, donc avec le carême, et les musulmans avec le ramadan? Tout simplement, qu'est-ce que ça amène, donc cette réduction alimentaire? Ça vous met votre corps en acidose. Et dès lors que votre corps est en acidose, il n'y a plus de cancer. Toutes les études de Gernèse ont été faites dans ce sens.
On va en parler de Gernèse, là.
Ont été faites dans ce sens. Donc, il y a une intelligence quelque part, hein. Bon, c'est un peu plus complexe pour la religion juive qui l'ont fragmenté en 7 journées. Donc, ça n'a plus le même impact. Alors, on pourrait m'objecter, les musulmans ne devraient pas avoir le cancer. Mais malheureusement, ils font fiesta la nuit. Donc, ils n'ont pas compris le sens de cette réduction alimentaire. Et nous, on bricole, on essaye de... Oh, bon, on peut prendre du canard le vendredi, etc. Puis finalement, donc...
Et puis maintenant, il n'y a plus de...
Il n'y a plus de jeûne, alors que c'était une grosse... une stratégie salutaire pour notre santé. Puis alors, on a évoqué... Il y a plein de petites choses. Vous avez évoqué le ribot avec la silice organique. Vous savez que l'ostéoporose, la raréfaction de la trame protéique des os, etc. Donc, on vous oblige à prendre du lait. Or, le lait, on en a déjà parlé, le lait, c'est fait pour les bébés. Hein. Vous avez le bébé, il perd sa lactase, c'est-à-dire cette enzyme qui digère le lait, il perd à 5 ans, c'est-à-dire la présure. Alors, à ce moment-là, le lait, il y en a qui ne le supportent pas à un certain âge. Alors, ils ont des eczémas, des migraines, des genoux bloqués, etc. Hein. Vous n'avez jamais vu une vache qui tétait une autre vache dans une prairie. Je ne l'ai jamais vu, donc il faut... Et en plus, le message du lait de vache, c'est de faire grossir un veau de 40 kilos à 400 kilos au bout de 6 mois. Donc, on a ce message en nous. Donc, le lait, dans beaucoup de cas, ne marche pas. Tant pis pour les paysans qui nous écoutent, mais enfin, il y a encore pas mal de bébés, donc ils peuvent en prendre. Donc, vous voyez, on a tellement de solutions... Et alors, donc, ça peut remplacer la silice organique, pas la minérale. Hein. C'est ce que vous avez expliqué, le ribot, qui a trouvé, enfin, avec, il avait un bras droit, je ne sais plus, qui s'est suicidé parce qu'on n'a pas reconnu ses travaux. Donc, lui a fait passer cette silice minérale, qui n'est pas assimilable par l'organisme, il a fait passer sur une diatomée, une algue, qui fait que ça l'a rendu organique. Et maintenant, alors, on ne parle plus que de cela, de la silice organique.
Puisque vous en parlez de les ribots, je voudrais apporter une information que j'ai reçue tout à l'heure à nos auditeurs. Depuis quelque temps, c'est-à-dire depuis que le ribot a été remis dans l'obligation de fuir, puisqu'il est traqué d'une façon absolument incroyable par Interpol maintenant. C'est une histoire de fou furieux. Donc il a disparu. Et au même moment, le téléphone de son laboratoire en Irlande a cessé de répondre et on a eu tendance à faire un rapport entre les deux choses. Il n'y en avait aucun. C'est tout simplement qu'il y a eu un changement de numérotation en Irlande et on peut donc désormais joindre le laboratoire. Alors, je vais donner le numéro tout de suite, si vous permettez de le faire vous-même. À partir de la France, je vous demande de le noter, mais je l'indiquerai dans le libre journal. C'est le 00 35 39 49 02 88 30 00 35 39 49 02 88 30. Et là, vous pouvez avoir toutes les explications pour avoir les produits, pour avoir le G5, qui est un produit effectivement assez stupéfiant, il faut le dire.
Même en cancéro, hein, vous savez, j'ai quand même 40 ans de médecine derrière moi. En cancéro, quand vous apprenez 3 cuillères 3 fois par jour, mais il faut commencer crescendo, hein, parce que ça se coud, hein, c'est très vibratoire et ça se coud, hein, mais il y a des résultats, là, sensationnels. Il faut y aller donc crescendo.
Alors justement, la deuxième. Donc, votre livre sur l'arthrite...
Il y a tous les ingrédients pour améliorer son cas.
Il est publié chez...
Robert Jose.
Robert Jose.
Pas comme Jose, J-A-U-Z-E.
J-A-U-Z-E. Mmh. Et il est, comme tous les bouquins que vous faites, c'est un bouquin utile, je dirais même utilitaire. Il n'y a pas de... C'est pas du baratin, il n'y a pas de grands exposés. Vous expliquez très bien... Pourquoi, comment, et ce qu'il faut faire.
J'ai appris que les rhumatologues l'achetaient.
Eh ben, vous voyez,
les rhumatologues allopathes. Hein.
C'est plutôt un bon signe.
Oui, oui.
Bon. Et on publie dans le Libre Journal, le dernier numéro, un papier dont vous n'êtes pas du tout l'auteur, mais dont vous êtes un des initiateurs involontairement, puisque je ne vous ai pas contacté avant de le faire. sur une histoire ahurissante, mais alors véritablement ahurissante, qui est l'affaire Gernaise. L'affaire Gernaise, c'est une affaire qui traîne depuis maintenant presque 40 ans. Hein.
Oui, 40 ans à peu près. Oui.
Le docteur Gernaise est un grand médecin. Disons le mot, s'il était là, il protesterait parce que c'est un homme d'une modestie extraordinaire. Et c'est un très grand médecin du Nord, c'est un génie de la médecine, on peut dire, et qui, il y a 40 ans, avait établi une espèce de régime qui permettait d'éviter pratiquement 30 à 40% des cancers. De prévenir 30 à 40% des cancers. Et il a fait savoir ça aux autorités médicales en France, notamment à Poniatowski, qui était à l'époque ministre de la Santé. Et Poniatowski a réuni une équipe pour étudier comment on pourrait diffuser cette information, puisqu'il s'agit essentiellement de... Il s'agit d'un régime en quatre points. Alors naturellement... Pas de tabac, pas d'alcool.
Oui.
Bon, deuxièmement, une alimentation équilibrée avec beaucoup de verdure, etc. Troisièmement, des nutriments ajoutés. Et quatrièmement, 10 jours par an, la prise de certains produits qui sont des produits parfaitement, d'une innocuité absolument parfaite, mais qui sont des antimitotiques, c'est-à-dire qui détruisent, qui empêchent la multiplication cellulaire des cellules cancéreuses. Alors ça, c'est vous qui m'avez appris cette histoire qui est ahurissante. C'est que quand Poniatowski a réuni son équipe, le directeur national de la santé publique s'est opposé à la diffusion de ce régime de prévention du cancer en disant deux choses. Premièrement, si on réduit le nombre des cancers de 30 à 40%, on va ruiner le tissu hospitalier français. Et deuxièmement, à terme, dans 7, 8, 9, 10 ans, on va provoquer une surabondance de retraités en bonne santé, qui vont encombrer et ruiner le système de retraite en France.
Oui.
Et on peut en tirer la conclusion que depuis 30 à 40 ans, il est mort à peu près 1 500 000 Français de cancer qui auraient pu être évités.
Oui. Mais les tests ont été faits, vous avez oublié de le dire, c'est qu'à un moment donné, Gernaise se situait donc au niveau du préventif. Alors, il suffisait donc chaque année de se mettre en réduction alimentaire, donc pendant 30 jours, donc de mettre son corps en acidose, qui fait que tous les petits cancers n'émergeront pas, parce qu'on est envahi de petits cancers, comme de virus, etc. Ensuite, donc, il y avait les nutriments. Alors, on a le professeur Gelé, qui était à ce moment-là le président donc de l'Ordre des médecins du Nord, a voulu en parler ex cathedra, et malheureusement donc on l'a fait taire. Et alors on en parlait beaucoup, hein, la rumeur finalement elle se répand, c'est sa fonction. Et alors à ce moment-là, le professeur Maté a dit bon, on va faire une expérimentation avec Gernaise, mais on va lui compliquer la chose. Donc il a été voir le Mitterrand, qui était président de la commission médicale à l'Assemblée, et a dit on va lui mettre quand même un cancer inguérissable, alors qu'on était au niveau du préventif. Donc on lui a dit on va vous mettre des rats avec un hépatome, un cancer, donc on provoque un cancer du foie primitif, donc des rats, et vous débrouillez avec ça, vous faites votre stratégie. Donc la stratégie, c'est en trois temps. Donc d'abord, les rats, un lot, on le mettait 30 jours en réduction alimentaire, un autre lot, 30 jours plus les nutriments, c'est-à-dire ce café Suvimax, uniquement...
Oui, c'est ça, l'étude Suvimax, qui a été publiée en juin cette année.
Et qui n'a pas été très concluant, entre parenthèses, ils n'ont pas mis les bons ingrédients. Et enfin, donc, la réduction alimentaire, nutriments, et deux petits antimitotiques, qui étaient la colchicine.
La colchicine dont on se sert pour les gouttes,
pour la
douleur de la goutte.
Voilà. Et puis l'hydrate de chlorure.
L'hydrate de chlorure, dont on se sert pour les enfants qui font leurs dents.
Qui font des poussées de dents.
C'est dire l'innocuité du produit.
Ça s'appelle le sirop de Tessèdre. Alors,
voilà.
Alors donc le on a fait le donc c'est le avec le professeur Truot, qui était le professeur responsable de la toxicologie à l'INSERM, et c'est le docteur Jacques et sa femme donc qui ont fait les travaux, et ils ont vu tout de suite au bout d'un an que les cancers ne se développaient plus, donc on les a sacrifiés, et voilà, on est, je vous donne les résultats. Donc rien qu'en réduction alimentaire, il y a 51% réduction alimentaire en acide, 51% de cancers qui ont été neutralisés. 72 avec, dans le deuxième cas, et dans la totalité, 94%. Mmh. Alors, ils se sont réunis, donc, avec des patrons, etc., rue Spontini, avec la responsable médicale, donc, du monde, et ils ont tout de suite, ils ont dit, il n'y a pas, ça marche, votre histoire, elle marche. Mais Charbonneau, le président de l'AP, donc, a dit, mais...
De la santé publique.
De la santé publique, mais on ne peut pas l'appliquer, parce qu'avec votre stratégie, vous allez prolonger la vie des Français de 7 ans, et on va envahir tous les hospices et on peut plus payer les retraites. Voilà. Nous étions en 1972, mais c'est pas idiot. Je reconnaître Serge Beckett que c'est pas idiot parce qu'on peut plus payer les retraites.
Merci docteur. Alors vous reviendrez, on en reparlera de cette histoire parce que je voudrais faire venir le docteur Gernaise.
Ah, il faut le déplacer, il a 80 ans.
Oui, mais il est magnifique, hein, il est en pleine santé.
Je voulais seulement dire que vous venez de résumer un article de 4 pages dans le Libre Journal dont nous allons dire un mot après la coupure.
Je ne sais pas si on aura le temps, mais en tout cas cet article est dans le Libre Journal effectivement, et je crois que c'est un article à lire, il est complet et assez intéressant, et on reviendra sur cette histoire parce que j'ai eu d'autres détails qui sont vraiment d'une stupéfiants.
C'est dans mon livre Le secret des peuples sans cancer aux éditions Dauphin. Hein,
vous trouvez déjà. Il y a déjà un chapitre qui est consacré à ça dans Le secret des peuples sans cancer, qui est un livre du docteur Willem, paru aux éditions Dauphin. Et je vous conseille de lire ce livre et puis le livre sur, effectivement, intitulé Au diable, l'arthrose et l'arthrite. Je suis obligé de conclure parce que nous allons inaugurer en deuxième partie une nouvelle émission qui sera régulière, je pense, si elle vous plaît, qu'on pourrait intituler Nouvelles de la vieille Europe, et qui sera présentée là par Philippe Christel, Xavier Van Lierd, Grégoire Gambier et Patrick Péel. Ce sont de jeunes journalistes pour la plupart, et qui recevront Philippe Claes, député européen du Vlaams Blok. On parlera de l'actualité géopolitique du mois, de la plus grande Europe, de Brest à Vladivostok. Vous voyez que c'est un vaste programme, et on pourra dire qu'on aura parlé de l'Europe dans cette émission, ce qui quand même est assez stupéfiant quand on sait de quoi on parle par ailleurs. A tout à l'heure dans quelques minutes. Avant de donner la parole aux jeunes animateurs de la chronique Nouvelle de la vieille Europe, quelques annonces rapides. Jean-Claude Rollina donnera un Didier débat le vendredi 5 décembre à 20h à la brasserie Up and Down, 35 boulevard Berthier, Paris 17e. Le sujet, c'est démographie, immigration et islamisme, les nouveaux fardeaux de l'homme blanc. Et puis, je rappelle que si vous voulez dîner avec nous, je ne sais pas s'il reste encore des places, mais vous pouvez téléphoner au 01 43 35 56 64, 01 43 35 56 64. C'est le restaurant La Mère Agitée, 21 rue Campagne Première, métro Raspail. Nous y serons vers 9h à peu près, et nous passerons 2 heures ensemble à bavarder.
Et puis les journées d'amitié de la paroisse Saint-Eugène-Sainte-Cécile auront lieu le samedi 15 de 14h à 18h30 et le dimanche 16 de 11h à 18h au centre Bergère, 9 rue Bergère, Paris 9e, métro Bonne Nouvelle. Un atelier pour enfants est prévu le samedi et le dimanche de 14h à 17h. Enfin, la chapelle Saint-Grégoire du Havre de la Fraternité Saint-Pilis organise le 23 novembre prochain à 16h une conférence donnée par le révérend père Jean-Joseph Capucin sur le thème du Padre Pio. Chapelle Saint-Grégoire, 54 bis rue Malherbe, 76 600 Le Havre. Pour tout renseignement, 02 35 43 36 93. Je répète, 02 35 43 36 93.
Alors Patrick, maintenant le moment est venu de dire du bien du Libre Journal. On en a donné une partie du sommaire, mais j'aimerais bien que vous donniez une autre partie.
Vous avez bien résumé le principal article. Alors, je rappelle d'abord que demain, 13 novembre à 19h, notre ami Thierry Bouclier, sous la présidence de maître Georges-Paul Wagner, présentera son livre « Tixier-Vignancourt, une biographie » au Centre Charlier, 13 novembre à 19h au 70 boulevard Saint-Germain. Je rappelle aussi que samedi 15 novembre, la deuxième fête de l'identité et des libertés aura lieu à partir de 10h, donc le 15 novembre, à Versailles, au Palais des Congrès, rue de la Chancellerie, métro, RER, station Versailles, rive gauche. Alors, en ce qui concerne le Libre Journal, oui, vous en avez résumé le principal article qui fait 4 pages sur ce scandale incroyable de la mafia du cancer qui a sacrifié 1,5 million de Français au business. Nous avons également un article, nous avons publié une semaine avant les confrères un article sur l'enlisement américain que nous intitulons « Le Pentagone a des fuites et Rumsfeld, le ministre de la Défense, n'est plus d'attaque ». Et puis en fait, c'est pas une semaine d'avance qu'on a, parce que l'enlisement américain, il y a beaucoup d'auditeurs qui s'en souviennent, nous en avons parlé il y a un an, en compagnie notamment de Pat Buchanan, l'ancien conseiller de Nixon. Nous dénonçons également un site internet porno dans une spécialité très particulière, la gérontophilie, qui est financée directement par le ministère de la Culture. Et enfin, notre ami François Brignot remercie Delanoë pour l'hommage qu'il vient de rendre à Tonton Francisque. Alors tout ça, c'est un bref résumé du sommaire du numéro 306 du Libre Journal qui vient de paraître, sur 24 pages, comme 3 fois par mois. On peut se procurer ce numéro en envoyant un carnet de timbres. On peut s'abonner pour 110€ pour un an, 4 places, donc en envoyant un chèque à SDB, 4 places, France List, 75010 Paris. Et puis on peut avoir un échantillon, un spécimen gratuit sur un site que je recommande maintenant chaleureusement. C'est notre nouveau site. Les articles maintenant sont nombreux et ils sont frais sur notre nouveau site www.francecourtoise.info.
Merci Patrick. Maintenant, place aux jeunes pour nous donner des nouvelles de la vieille Europe.